Demander à Marie, celle qui est l'innocente, celle qui est l'innocente devant l'innocent persécuté. Il y a comme un redoublement d'innocence devant le redoublement de la haine dans sa manière la plus incompréhensible. On va demander à Marie de nous aider parce que, avec le pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous touchons sûrement un des lieux les plus difficiles, les plus ténébreux, mais en même temps un des lieux des plus importants pour notre vie spirituelle, pour devenir l'enfant bien-aimé de ce Père bien-aimé. Alors demandons à Marie que tout au long de cette journée et autant de temps qu'il le faudra, elle nous aide, parce que à partir de là peut véritablement s'ouvrir toute une lumière, tout un chemin pour notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais commencer par relire l'évangile de Saint Matthieu, qui met tellement en lumière cette insistance de Jésus sur le pardon. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Alors nous voyons bien, il y a une insistance là. C'est comme si Jésus attirait vraiment notre attention sur le fait qu'il y a vraiment, il y a quelque chose là qu'il faut vraiment regarder. Alors je crois qu'on va passer le temps qu'il faudra à regarder ça. N'hésitez pas par des allers-retours de dire les lieux qui ne sont pas compris ou qui sont mal compris ou mal exprimés. Parce que je crois qu'on touche là un des lieux les plus importants. Alors, pour ceux qui prennent le train en marche, parce qu'il y en a qui arrivent, qui repartent, ou d'autres choses comme ça, nous avons parlé de ce Père bien-aimé, notre Père. Et puis nous avons parlé « Délivre-nous du mal », un petit peu comme les deux bouts de la chaîne de notre Père, de ces enfers dans lesquels nous pouvons nous trouver, ce mal. Et puis, hier, nous avons aussi examiné « Ne nous soumets pas en tentation ». Autrement dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et puis, puisque nous remontons d'une manière plus humaine, adaptée à ce que nous sommes, pour arriver vers notre Père, Jésus, lui, il part du Père et il descend dans nos enfers. On comprend qu'il puisse s'exprimer de cette manière. Mais nous, quand nous voulons nous mettre à la suite, eh bien, nous partons de nos enfers pour aller vers notre Père. Donc, c'est pour ça que nous prenons le Notre Père à l'envers, parce que c'est comme ça que nous sommes bâtis, on est bâtis à l'envers. Heureusement, Jésus nous remet à l'endroit, c'est-à-dire qu'il nous remet enfants bien-aimés de notre Père. Alors donc, délivre-nous du mal, de l'esclavage, délivre-nous vraiment de cet enfer, ne nous soumets pas à la tentation d'y revenir, on voit bien, mais là où nous sommes, il y a un pas de plus à franchir entre cette épreuve subie, l'Égypte. Alors, on reprend le passage du peuple d'Israël pour montrer comment nous passons par ces mêmes chemins. L'Égypte. Alors, dans un livre de Anthony Bloom, dans la prière vivante, il a un petit extrait. Et ça dit bien du lieu d'où nous partons. Texte retrouvé dans les archives d'un camp de concentration allemand. Donc ça dit bien l'esclavage tel que des frères et des sœurs aujourd'hui encore le vivent. Et j'en profite aussi pour dire combien nous sommes solidaires dans la retraite, pas seulement avec ceux qui sont dans la misère dans le monde, mais aussi solidaires les uns des autres. Et il faut que nous redoublions de prières pour ceux qui d'entre nous peuvent vivre des choses plus difficiles. Et je le sais, je suis bien placé pour savoir qu'il y a d'entre nous des gens qui vivent vraiment des choses difficiles. Peut-être on ne s'en aperçoit pas, mais c'est vrai. Alors voilà ce juif, c'est la prière donc qu'il a écrite dans ce camp de concentration. Paix à tous les hommes de mauvaise volonté. Que toute vengeance cesse, tout appel au châtiment et à la rétribution. Les crimes ont dépassé toute mesure, tout entendement. Il y a trop de martyrs. Alors il y a plein de points de suspension, parce que tout ça s'est condensé et on a coupé la prière. Aussi, ne mesure pas leur souffrance au poids de ta justice, Seigneur. Et ne laisse pas ces souffrances à la charge des bourreaux pour leur extorquer une terrible facture. Qu'ils soient payés en retour d'une autre manière, inscrits en faveur des exécuteurs, des délateurs, des traîtres et de tous les hommes de mauvaise volonté, le courage, la force spirituelle des autres, leur humilité, leur dignité, leur lutte intérieure constante et leur invincible espérance. Le sourire qui étanchait les larmes, leur amour, leur cœur brisé, qui demeurèrent fermes et confiants face à la mort même. Oui, jusqu'au moment de la plus extrême faiblesse. Que tout cela soit déposé devant toi, ô Seigneur, pour le pardon des péchés. Rançon pour le triomphe de la justice. Que le bien soit compté et non le mal. Et que nous restions dans le souvenir de nos ennemis, non comme leurs victimes, non comme un cauchemar, non comme des spectres attachés à leurs pas, mais comme des soutiens dans leur combat pour détruire la furie de leurs passions criminelles. Nous ne leur demandons rien de plus, et quand tout cela sera fini, donne-nous de vivre hommes parmi les hommes, et que la paix revienne sur notre pauvre terre. Paix pour les hommes de bonne volonté et pour tous les autres. Voilà, nous sommes là au cœur de notre sujet. Entre l'épreuve subie, l'Égypte, le mal, la tentation de nos démons familiers, tous ceux qui nous habitent, la sécurité d'avant quand même, même si c'était en esclavage. Il y a maintenant un nouveau pas à franchir, une condition absolue pour retrouver la liberté, c'est le pardon. Alors, il faut tout lâcher, comme ce juif persécuté. Il faut vraiment tout lâcher. Et nous aurons le temps d'examiner ce « comme nous pardonnons ». Il y a une question d'arriver au cœur de notre Dieu d'une manière où, si nous ne sommes pas libérés par lui en pardonnant à nos frères et à nos sœurs, la porte reste fermée. C'est-à-dire que Dieu nous offre de pardonner, mais ce pardon, c'est à nous. Et alors nous allons voir tout ce qu'il nous en coûte à l'octroyer à ceux qui nous ont fait du mal. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas passer. Il ne s'agit pas de quelque chose que Dieu nous refuserait, il s'agit de quelque chose d'accepter que Dieu nous donne pour que nous fassions le pas, pour qu'ayant fait le pas, Dieu nous reçoive dans son amour. Bon, ça va s'éclairer, j'espère. Et en ayant tout lâché, nous retrouver, nous, à neuf, curieusement, comme ce juif le dit, sans connaître Jésus, lui, puisque c'est dans un camp de concentration qu'on a retrouvé cette prière. Nous connaissons Jésus avec la grâce qu'il nous donne. Alors, le non-pardon, si nous ne pardonnons pas, le non-pardon met échec à l'amour sans limite de Dieu. Voilà. Nous sommes dans un lieu absolument majeur. Dieu veut, lui, nous pardonner. Il n'est que pardon, Dieu. Mais c'est l'accueil de son pardon qui nécessite pour nous, afin de le recevoir, l'espace de liberté qu'implique le pardon que nous avons à donner. Il y a quelque chose d'excessivement subtil entre la manière dont nous avançons compte tenu de notre liberté et la manière dont Dieu avance pour nous donner une liberté encore plus grande. Or, si nous ne sommes pas pardonnés, nous ne pouvons plus avancer. Et le refus de pardonner est équivalent au refus d'aimer. Alors, pardonner est une chose extrêmement difficile. Alors, on va prendre tout notre temps. Peut-être ça durera 3 paroles, c'est possible. Mais il ne faut pas qu'on escamote le sujet. C'est un des sujets les plus importants. Alors, vous vous souvenez du rêve de cette personne qui avait été abusée, petite, sexuellement. Parler de cette personne et je vous ai raconté son rêve, vous vous souvenez, hein, et Elle était enchaînée par ce ballon immense. Et si elle lâchait la corde, elle se fracassait dans le vide. Si elle tenait la corde, elle était entraînée dans ce non-pardon, dans cette révolte, dans ce mépris, dans tout ce que contient un enfer. Le sacrement a fait son travail, l'accueil a fait son travail, elle s'est retrouvée dans son rêve, dans une nacelle, dont elle avait les commandes, et c'est Jésus qui menait la barque. Or, voilà le passage que nous avons à faire. Alors, dans ce que je vais dire maintenant, l'offensé, l'offenseur, l'offense, vous pouvez par exemple mettre ça. Mais vous pouvez mettre toute autre chose. Vous pouvez même mettre votre propre histoire. Alors cette offense, elle crée chez la personne offensée un trouble grave. Et un trouble grave qui est au-delà, qui précède toute réflexion. Quand on se trouve dans la situation de quelqu'un d'offensé, on perd le contrôle. On entre véritablement dans la colère, dans la tristesse, on est dans la passion, et il n'y a pas de réflexion. Ça dépasse la réflexion. Donc, la personne qui est offensée se trouve dans une situation avant tout passive. Elle a reçu un choc, un véritable choc. Et elle est là affrontée à un obstacle insurmontable. Mais cette offensée, mettez un nom dessus, mettez vous-même si vous le voulez, il est d'autant plus désarmé que l'offense le surprend. Quand même, imaginez. C'est pas possible qu'il ait fait ça, qu'elle ait fait ça. Non. En plus, à moi, en plus dans la situation de confiance. Alors, je pourrais partir maintenant et faire des pages de poésie, mais il faut aller plus loin. Alors, l'offense est d'abord ressentie comme un manque. Ce qu'il me fallait pour vivre, on me l'enlève. Comme quelque chose qui est ôté. Alors, une relation dont la stabilité paraissait acquise. Vous savez, c'est quand on dit dans la parole, quelque part, c'est les psaumes, un frère qui a levé le talon contre son frère. Pourtant, il partageait mon pain tous les jours. Comment peut-il se remettre en rébellion de cette manière? Alors, on a aussi des beaux thèmes de prière. Donc, quelque chose que je ressentais comme mien, il y avait quelque chose qui faisait partie de mon équilibre, et j'ai l'impression qu'on me l'a volé. Et le mot n'est pas trop fort. Donc, ce qui manque désormais à l'offensé a été dérobé par l'offense. Et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Dans mon trouble, je ne sais même pas ce que c'est. Je sais qu'on m'a enlevé quelque chose, et quelque chose d'essentiel à ma vie. Alors, oui, je suis vraiment blessé. Cette offense, c'est comme l'accident, c'est pas à moi que ça aurait dû arriver. Non. Non. Dans ce sens-là, je crois que nous crions innocents. Je pense que le cri derrière, c'est le cri « mais je suis innocent ». Pourquoi tu fais ça? Je suis innocent. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça derrière. Alors désormais, quelle relation avec cet offenseur? Quelle relation avec cet offenseur? Mais la relation, elle passe par la blessure, elle passe par la colère. Et puis, il y a un véritable tunnel, un véritable vide, quand à l'espoir d'une relation meilleure. Comment voulez-vous réconcilier ça? C'est pas possible. On entend quelquefois, mais on ne peut pas pardonner, c'est pas possible. Et de plus, non seulement l'offenseur, je ne peux pas le retrouver, mais je ne peux même plus me retrouver moi-même dans cette situation-là. Hein? J'ai perdu ce que les psychologues appelleront l'estime raisonnable de moi. Il faut quand même un petit peu d'estime de soi. Or, cette offense a été jusqu'à blesser l'estime que j'ai de moi. Donc, alors, vous voyez la situation. Et c'est jamais naturellement envisageable de perdre l'estime qu'on a de soi. L'estime qu'on a de soi est nécessaire pour vivre. Alors l'offense est vécue comme une agression dont la menace ne cesse pas. Voilà, il y a un côté d'acharnement. Et dont la menace ne cesse pas avec son expression. Alors commence un temps impossible et il peut durer toute une vie. Hein? On est porteur de ressentiment, de révolte, de désir de vengeance, d'abassement, d'abattement, d'abaissement, de tristesse. Voilà. Et les fruits de l'offense, dans le cœur de l'offensé, ne peuvent être que des fruits de ténèbres. Alors, il y a l'affection négative dirigée vers l'autre. Il y a l'affection négative dirigée vers soi-même. Et il y a un gros risque de passer à la violence de la haine. Voilà. Alors c'est ça qu'on va examiner maintenant avec Marie Balmary dans Le sacrifice interdit. Et on prendra le temps qu'il nous faut pour ça. Reprocher pour aimer. Je prends maintenant quelques pages de son livre. Reprocher pour aimer, c'est la Bible qui nous le demande. Comment aimer ce qui n'est pas aimable ? Aimer le mal, c'est pathologique. Puisque dans notre nature, nous sommes faits pour aimer le bien. Alors, il faut qu'on fasse très attention à notre langage chrétien. Parce que notre langage chrétien peut tomber très mal si la terre n'est pas apte à le recevoir. Toutes les questions d'humilité, toutes les questions d'humiliation, toutes ces questions-là. Si jamais c'est reçu de travers, mais ça peut faire les ravages impensables, impensables. Et Dieu, par contre, dans sa parole, nous prévient pour que nous agissions sainement en vue de devenir saints. Comment aimer ce qui n'est pas aimable ? Alors, Dieu, dans le Lévitique, au chapitre 19 et au verset 17-18, a une parole qui doit nous aider à commencer un chemin de pardon. Yahvé l'innommable parla à Moïse pour dire « Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et voilà ce que tu leur diras. Soyez saints parce que moi, je suis saint. » L'innommable, Yahvé, votre Dieu. Et notre « tu aimeras ton prochain » se situe dans ce contexte de sainteté-là. Et c'est considéré, tout cet ensemble, comme la loi de sainteté. Alors, on va citer cette traduction parce que un mot, nous avons une difficulté énorme à le traduire. C'est le rapport que vous allez apercevoir maintenant. Alors, dans la Bible de la Pléiade, voilà comment ces deux versets que je viens de citer sont traduits. « Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur. Tu devras corriger ton prochain et tu n'encourageras pas de péché à cause de lui. » Littéralement, tu ne porteras pas le péché de ton prochain. L'offense doit être. Dites, enfin, on appellera ça rendre justice. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé. Voilà, alors nous sommes en plein dans notre sujet. Chouraki a traduit de cette manière. Ne hais pas ton frère en ton cœur. Admoneste ton prochain. Écoutons bien à nouveau. Ne te charge pas de faute pour lui. Autrement dit, ne prends pas la faute de ton frère sur ton dos. C'est curieux, hein? Ne te venge pas, ne garde pas rancune contre les fils de ton peuple, et tu aimeras ton semblable comme toi-même. Hostie traduit, tu ne haïras pas ton frère en ton cœur, tu devras reprendre ton prochain, pour ne pas te charger d'un péché à cause de lui. Vous voyez, entre l'offense, parole injurieuse, par exemple, ce que je vais en faire, et si je n'en fais rien, eh bien cette parole ira se loger en moi et ne pourra pas ne pas se traduire un moment en vengeance. Mais ça se fera inconsciemment, si ça ne se fait pas consciemment. Hostie traduit, tu ne haïras pas ton frère en ton cœur, tu devras reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune aux fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Yahvé. Vous voyez progressivement ce qui est en train de se mettre en œuvre. Il y va de l'amour de soi, parce que Dieu m'a fait pour aimer et être aimé. Il y va de l'amour de l'autre et il y va de nos relations réciproques avec notre relation à Dieu. Nous commençons à comprendre le « comme vous pardonnez » et le passage qui se fait entre cet amour qui vient de Dieu et la manière dont nous nous situons les uns avec les autres. Rabbinat traduit « ne hais point ton frère en ton cœur, reprends ton prochain. » Vous voyez, reprends ton prochain. Il va falloir que tu lui dises. Jésus nous l'a dit quelque part. Si tu as quelque chose contre ton frère, va le dire à ton frère. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord lui dire et porte ton offrande après. Ce passage, ce courant, s'il ne passe pas là, il ne passe plus avec Dieu. Ne hais point ton frère en ton cœur, reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Encore une nouvelle manière de traduire. Ne te venge ni ne garde aucune rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Jérusalem traduit. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Et à nouveau, nouvelle traduction, pour bien montrer de quoi il s'agit. Tu dois réprimander ton compatriote, et ainsi, tu n'auras pas la charge d'un péché. Donc, si je ne lui dis rien, c'est moi qui prends le péché sur moi. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Yahvé. La taupe traduit, n'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est moi le Seigneur. Et second traduit, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. littéralement dans l'hébreu, alors vous savez, l'hébreu est pratiquement intraduisible, hein, et nos traductions. De poids. Tu reprocheras le reprochement, je ne sais pas comment dire. Alors, les variantes, nous les avons entendues. Donc, c'est dans le reproche dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'un reproche jugement, mais d'une de ces paroles qui essaie de montrer à quelqu'un un mal dont il n'a peut-être pas conscience, bien qu'il en soit l'auteur. Faire des remontrances, reprendre, adresser un reproche, c'est un acte de parole fortement encouragé dans ce commandement. Pourquoi ? C'est tout simple. S'il n'y a pas de parole dite, eh bien, il y aura un coup de poing qui partira. Voilà. Voilà. Et le coup de poing, il va à l'infini jusqu'à déclencher des guerres mondiales. Voilà. Voilà ce qui est derrière. Un frère, un compatriote du même peuple a commis une faute. Je le haïrai si cette faute, c'est moi qui la porte. Et ceci arrivera si je ne lui reproche pas sa faute. Vous comprenez ? Si je ne lui dis pas qu'elle est sienne, c'est pas la mienne, mais la sienne. Que se passera-t-il si je porte sa faute ? Ne lui en ayant pas fait de reproche et que je le hais, je me vengerai, ayant gardé sa faute sur moi. J'essayerai de la lui rendre en le rendant victime à son tour du mal qu'il m'a fait. Le mal aura alors triomphé du verbe. Or, nous sommes des animaux qui parlons. Qu'un chien aille mordre, il est un chien. Qu'un humain aille mordre, il n'est pas un chien. Puisque la faute ne sera pas dite, elle sera commise à nouveau. Peut-être même augmentée dans la vengeance. Et de œil pour œil, dent pour dent, eh bien, je peux tomber dans l'escalade de la violence. Hein? Il en a tué 7, eh bien, j'en tuerai 77. C'est la Mecque qui dit ça. Et Jésus reprend l'inverse pour essayer de dire ce qu'il doit dire. Donc, lui faire du mal, est-ce que c'est un bon moyen pour lui faire connaître sa faute? On peut en douter. Pas de connaissance qui ne passe par la parole. L'autre qui m'avait offensé et auquel je n'ai pas adressé de reproche, mais de la haine, et une vengeance, eh bien, il va me haïr et se venger. Et la grande roue, on en parlera, cette grande roue, prenez l'expression, la grande roue est en marche. C'est le diable en personne. Je ne reprends là que ce que nous savons tous dans l'escalade de la violence, que ce soit dans notre famille ou que ce soit au niveau mondial. Alors ce qui est important à regarder, c'est le lien fait entre ne pas reprocher à l'autre sa faute et la porter moi-même. Voilà le pourquoi de cette traduction. Dans la vie quotidienne, tout être humain ayant l'exercice de sa sensibilité, de sa raison, connaît le malaise que donne une offense à la suite de laquelle il n'a pas pu exprimer le déplaisir ou la souffrance qu'elle lui cause. 10 000 exemples chaque jour. Hein? Alors, remettons-nous dans le quotidien. Hein? Vous savez, on traduit souvent ça. Ah ben maintenant, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ben, la belle affaire. J'aurais voulu dire la première goutte qui tombait dans le vase. Et souvent, on fonctionne comme...
suffit, hein. Je vais voir, hein. Il n'y a plus de paroles, mais maintenant, il y a des actes. Oui, mais... Non, il ne faut pas que j'aille trop vite. Qu'on soit privé d'un objet personnel, contraint de faire une tâche qu'un autre devrait faire, accusé d'un acte qu'on n'a pas commis, ou même simplement qu'on soit ignoré par quelqu'un dont on attendait un salut. Cela peut nous blesser à divers degrés. Souvent, par exemple, nous ne pouvons pas, ce soir-là, nous endormir comme d'habitude. Nous éprouvons le besoin d'en parler à quelqu'un. Et si nous trouvons alors une oreille amie pour dire les reproches que nous n'avons pas pu faire à celui qui nous a offensés, ça va déjà beaucoup mieux. Ces reproches ne sont pas encore parvenus à leur destinataire, mais ils sont prêts à l'être, ayant déjà mis des mots sur notre blessure. Notre colère a trouvé un témoin. Si nous sommes seuls ce soir-là, peut-être allons-nous nous mettre à écrire une lettre à celui auquel nous avons ce reproche à faire. Et même si nous n'envoyons pas la lettre, nous éprouverons déjà un soulagement. Pour certains, le seul fait d'écrire quelques lignes à ce sujet, pour eux-mêmes, suffira à apaiser. Apaiser, mais pas régler. Alors, revenons maintenant à ce qu'on a déjà partagé pour l'enfant. Et regardons combien nous sommes des traumatisés. Bon. L'enfant, dans son plus jeune âge, il n'a pas de parole. L'enfant n'a pas de parole, donc il somatise. Il va somatiser, il va attraper des boutons, il va attraper la rougeole. Mais quand l'enfant commence à dire « Tu vas te taire, espèce de petit insolent, va !» Puis je paf, je te refiche une autre baffe là-dessus. Alors que l'enfant était en train de dire l'injustice qu'il avait subie. Vous avez quelquefois, quand un parent est exaspéré, puis que vous êtes là, et puis que le parent veut se contenir, « Je te prends l'enfant, il te le serre !» Et vous voyez l'enfant blêmir. Il n'y a que rien de plus, il peut s'évanouir aussi. L'autre poliment l'a remis en place. Imaginez ce que ça va faire dans le cœur de cet enfant. Il n'a pas le droit à la parole. Alors, puisqu'il n'a pas le droit à la parole, eh bien, il va bien le prendre en lui. Il va bien le prendre sur lui, l'enfant, oui. Alors, comme on dit, il introjecte le mal. Voilà, un bon petit ciment au fond du cœur. Et comme il ne peut absolument pas se donner la possibilité de perdre son parent, parce qu'en perdant son parent, il perd la vie, et ça les psychologues l'ont chanté de toutes les manières, il a beau avoir un mauvais père, une mauvaise mère, il faut qu'il idéalise un bon père ou une bonne mère pour survivre, mais il l'idéalise. Donc ce n'est pas la réalité. Mais c'est la seule manière de s'en sortir psychologiquement, il ne peut pas s'en sortir autrement. Mais alors, s'il introjecte le mal et qu'il idéalise le parent, où va l'accusation? Dites-moi. Et c'est moi qui vais m'accuser. Comme ma gamine, quand elle vient me dire, 15 ans après, qu'elle a été abusée sexuellement. Mais bien sûr. Le viol du silence. Vous voyez? Redoublement. Le silence va faire son travail de viol. C'est quand même fou. Fou. Alors donc, si je ne peux pas accuser l'autre, je vais reprendre une paire de baffes. Eh bien, je vais m'accuser moi-même, que voulez-vous que je fasse d'autre? Et c'est comme ça que vous avez des gens qui se battent, qui se frappent jusqu'à faire saigner leur tête et saigner leurs mains. Vraiment, c'est incroyable. Donc, c'est moi qui suis mauvais. C'est moi qui suis mauvais. Et il faut justifier l'autre comme bon. C'est quand même incroyable. Alors, bien oui, à ce moment-là, où est passée ma vie? Où est passée ma vie? Où je suis dans ce noyau mauvais? Où j'idéalise l'autre et je dois m'identifier avec l'autre idéalisé? Mais je ne suis plus en moi-même. Je ne suis plus en moi-même. Alors, imaginez
que c'est les parents, c'est le bon Dieu, c'est l'Église, c'est la famille, et puis c'est tous les... Imaginez ce que ça fait après ça. Oui. La faute est bien revenue sur lui. Voilà. Mais c'est pas la sienne. Mais c'est comme ça qu'il va la faire. C'est comme ça qu'il va la vivre. Alors, comment faire pour se réintégrer? L'offense qui nous a été faite, nous éprouvons le besoin de la déposer, de la mettre hors de nous. Mais imaginez le fonctionnement psychologique de quelqu'un qui a dû vivre ce genre d'oppression. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il fonctionne selon, eh bien, selon les chemins qui ont été tracés dans sa vie. Il fera des années et des années et des années et des années. N'est-il pas vrai donc que nous la portions auparavant, puisque la mettant dans une conversion avec un autre ou sur une feuille de papier, nous sommes déjà plus légers? Vous voyez, quand c'est le petit lieu qui va faire caisse de résonance dans les autres lieux. Alors, quelquefois, vous vous trouvez dans cette situation. Mais je lui ai quand même fait beaucoup de mal. Je lui ai dit que ça. Et ça a déclenché une colère. Ben oui, c'est la petite goutte d'eau qui est arrivée dans un seau qui était plein de je ne vous dirai pas quoi. Je parle là d'offense que tous nous connaissons. Offense qui n'échappe pas à notre conscience, et dont nous parvenons la plupart du temps à débarrasser notre esprit. Il ne s'agit ici que d'offenses entre personnes plus ou moins égales. Il s'agit toujours du livre de Balmary. Si entre l'offenseur et l'offensé, la relation est beaucoup plus inégale, les choses se modifient. En effet, la force de l'offense peut être beaucoup plus grande lorsque l'offenseur est plus fort que l'offensé. Celui-ci pourra encore moins exprimer sa souffrance. Plus encore si l'offenseur est un parent ou un maître admiré et aimé. Il n'est pas facile à un enfant de réprimander un de ses éducateurs. S'il le fait pourtant, et qu'il ait la chance que l'adulte veut bien reconnaître qu'il a mal agi envers l'enfant, ce dernier s'en trouvera plus fort et leur relation entre eux aura franchi une étape vers une égalisation en valeur de chacun, vers le devenir soi de l'enfant, reconnu comme un autre, dont la parole a du poids. Mais comme il en est souvent autrement, cela ne peut être mis de côté. Bien des enfants et bien des dominés socialement, professionnellement, politiquement, ont vécu et vivent la succession d'événements suivants. Ayant été offensés, ils protestent et sont alors réprimandés de réprimander. Ah, là voilà notre double réprimande. Ah, le voilà, le lieu biblique qui nous dit « fais très très attention à ça ». Le voilà, le lieu évangélique qui revient en disant « là, porte toute ton attention ». Si on ne prend pas le contre-pied, là, on risque alors de dévaler la pente. On lui fait le reproche, et on lui reproche le fait de reprocher. Et ce que le bon Dieu nous demande, c'est de faire le mouvement inverse, d'oser reprocher, d'oser reconnaître qu'il aurait fallu reprocher, même si on ne l'a pas fait. Dans bien des familles, dit-il, cet homme, cette femme, oui. Dans bien des familles, oui, à forte ambition éducative, des enfants ont même dû demander pardon d'avoir fait un reproche. Alors ça, c'est le comble. Ça, c'est le comble. L'enfant subit une injustice, il le dit, et on lui dit qu'il est en train de faire un péché en le disant. Ça, c'est le comble. La boucle est bouclée. C'est l'offensé qui est maintenant celui qui demande pardon. La faute est revenue sur lui. Il ne peut pas s'en sortir. Il est difficile de dire l'offense. Mais nous comprenons que dans cette situation-là, l'offense non dite peut être génératrice de maladie. Si le pardon n'intervient pas, eh bien, on va avoir des comportements qui vont être des comportements particuliers. Alors, nous reprenons maintenant là où nous étions dans notre propos. Donc, l'affection négative est dirigée vers l'autre et vers soi-même. Si elle n'est pas soumise à la raison, c'est-à-dire lieu de parole, voilà, elle ne devient pas parole. Et si elle n'est pas parole, elle va se transformer en haine. Et comme je n'ai pas le droit de haïr, je vais à nouveau redoubler. Donc le Lévitique, en effet, avant de proscrire la vengeance et la rancune, interdit la haine. Autrement dit, hein, il dit « ne passe pas par là ». Mais il montre ce qu'il faut faire. Ne te charge pas de la faute que l'autre est en train de commettre contre toi. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Donc il faudra un temps à l'offensé, plus ou moins long selon les personnes, pour prendre la véritable mesure de l'offense. Même si l'offense vise matériellement un aspect de la personne offensée, hein, une partie de son corps, une partie de son esprit, une partie de son intégrité psychologique, n'importe. Hein. C'est la globalité de la personne offensée qui est atteinte. L'offensé se sent un objet d'injustice. Et quand même, il estime juste le respect qu'on lui porte. Oui, mais combien l'attitude de l'autre va devenir importante là. Pour lui, l'offense reste un mensonge. Alors, s'il se voit par un geste, par une attitude, par une parole d'un autre que l'offenseur, qui le traite à nouveau comme objet de mépris, ben, l'offensé va finir par se découvrir enveloppé de ce mépris et va finir par se mépriser. Il manque de confiance en soi. Hein. On voit où est-ce que ça va s'enraciner. Hein. Donc finalement, c'est sous tout son être qui va se trouver prisonnier du mépris. Ben, je n'ai pas de confiance en moi, que voulez-vous? Oh, ben, c'est vrai, on ne m'a jamais beaucoup fait confiance. Mais si, ayez confiance en vous. Bon, oui, si vous voulez, mais je n'ai pas confiance en moi. Ainsi, l'offense est inacceptable, c'est une réduction. Hein? Si je l'accepte, c'est un travestissement de tout l'être. Hein? Donc c'est pour ça que la réaction spontanée est inadéquate. Il va falloir mettre des paroles là-dessus. L'offensé n'a même pas la possibilité de nier l'offense. Ou alors, il le met dans son inconscient, bien derrière, caché. Mais ça va qu'alimenter la bombe à retardement. Ce serait une absurdité. Et l'offensé ne peut pas éviter la réalité de l'offense. Il est dans un dilemme. Alors, deux possibilités. Se venger ou pardonner pour retrouver la liberté. Mais l'acte de pardonner et de se venger, apparemment, je ne suis pas au niveau de la réflexion à ce niveau-là, non? Apparemment, ça paraît cohérent pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, mais pas pour celui qui est à l'intérieur. Lui, il se trouve dans un déséquilibre, et lui, il se trouve dans un manque. Et quand la délibération, quand la réflexion arrive, elle est dans les pires conditions. Alors, Heureux sera-t-il si la sagesse lui inspire de ne pas délibérer à chaud. Hein, le proverbe, l'homme lent à la colère est plein d'intelligence. L'homme emporté engage la querelle. Donc l'offensé est contraint à un premier renoncement. Hein, comme on dira, il faut retrouver son calme. La réplique immédiate qui apparemment le satisferait lui est refusée. Elle ne sera pas adaptée. Alors regardons l'offenseur maintenant. On a regardé l'offensé. Maintenant regardons l'offenseur. Prenons cette personne en relation avec cet acte dont on a parlé. D'abord, l'offensé n'a pas choisi d'être offensé. Dans ce sens-là, on dira qu'il est victime. Et puis, maintenant, non seulement il est victime, mais profondément atteint, déstabilisé. Mais en revanche, comment l'offenseur ne conserverait-il pas à nos yeux son mystère ? Vous savez, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Et ses motifs, pourquoi il a agi comme ça ? Pourquoi ? Et ce mystère habite profondément le cœur de l'offensé à propos de l'offenseur. Alors, on peut même penser que c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la jalousie, dans le cas précis, un désir charnel. Mais il semble que, du côté de l'offenseur, tout ce que l'on peut dire va trouver chez lui une erreur d'évaluation. Il était errant ou il était ignorant. L'offenseur, certes, il sait qu'il offense. Il n'est donc pas ignorant de ce qu'il fait. Mais son ignorance est celle du réel qui s'offre à lui, de sa victime. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors son ignorance est de juger que la réalisation d'un bien particulier, prenons l'exemple que je viens de donner, une jouissance, une domination passagère, pour lui, il le prend comme un bien particulier, mais il ne se rend pas compte que c'est la négation d'un bien de l'autre, mais plus que cela. Alors, comme on vient de le dire tout à l'heure, il peut simplement s'agir d'une vengeance. On m'a fait ça, ben je te fais ça, puis maintenant je suis quitte. Eh bien, ça fait une victime de plus sur le bord de la route. Et nous entrons dans la grande roue. Hein? L'armée, on aime bien, hein? L'armée, le colonel en général, eh bien, il a une femme qui n'est pas commode. Alors il prend une bonne en guirlandade, je ne sais pas quoi, moi, avant de partir, et puis le premier capitaine qu'il envoie, il le met aux arrêts. Pauvre capitaine, il y est pour rien. Ou bien c'est le coup de pied dans le chat. N'importe quoi. Donc, il y a une erreur d'évaluation qui consiste dans le fait que l'offenseur, bien sûr, il a la pensée qu'il lèse le bien d'un autre, mais il est dans l'ignorance de ce qui est réellement lésé, la personne de l'autre. L'offenseur n'a pas conscience qu'il touche à l'être de la personne qui l'offense. Exemple, l'injure. Hein? Quelqu'un vous injurie. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout, j'ai dit un mot, un gros mot. Mais quand l'injure ou la calomnie a quitté la bouche de celui qui l'a dite, elle va commencer son travail de destruction dans celui qui va la recevoir. Et 10 minutes après, il l'a peut-être déjà oublié, mais pas l'autre. Le poison est lancé. Il continue, ce poison, sa course mortelle. Donc l'offenseur, qui peut considérer l'injure, par exemple, comme peu de chose, insignifiant même, fait une grave erreur, là. Parce que l'injurié, lui, se voit identifié à l'injure. On comprend pourquoi Jésus rectifie. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, ne dites même pas une parole injurieuse. Ne dis pas à ton frère imbécile. Vous voyez où est-ce que ça va se chercher là? Donc l'offense commise, qui a engagé la liberté de l'offenseur, n'a encore rien engagé de la liberté de l'offensé. Parce que l'offensé, il peut pardonner ou il peut ne pas pardonner. Donc, il reste un choix du côté de l'offensé et le sablier se retourne. C'est maintenant du côté de l'offensé que ça va se passer. L'offenseur prenant progressivement conscience de sa faute. Pardonner, pas pardonner. Si je ne suis pas pardonné, je ne suis pas libre. Alors actuellement, là où nous sommes et où nous allons nous arrêter, parce que vraiment il faut s'arrêter un moment, eh bien, l'offense a changé de camp. Je m'explique bien? Vous comprenez? Un petit peu, pas plus? Oui, ça veut dire que celui qui est l'offenseur, qui ne savait pas le mal qu'il faisait, va entrer dans le mal qu'il a fait. Et de ce mal, il aura besoin d'être déchargé par le pardon de l'autre. Et donc il est prisonnier du pardon, donné ou pas donné. Vous comprenez? On va s'arrêter là pour ce matin. Priez pour que ce soit le plus clair possible, mais je crois qu'il faut prendre le temps. Si on fait trois paroles là-dessus, tant pis. Mais je crois que c'est capital, parce que Jésus attire notre attention là. Et il faut vraiment regarder, puisque c'est le centre du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On aura même le temps de regarder, j'espère, ce « comme ». Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et alors, on va vraiment demander les uns pour les autres que Dieu nous aide. Et n'ayons pas peur de reconnaître peut-être tout ce que nous avons introjecté de mal et qui aujourd'hui fait un espèce de ciment là-dedans qui m'empoisonne, mais complètement, complètement. Et je suis plus libre. Et si je ne le dis pas, je prends sur moi ce péché. Mais Dieu me demande de ne pas prendre sur moi ce péché. Vous comprenez? Dieu m'avertit de ne pas prendre sur moi ce péché. Il me dit au contraire, dirai-le. Et il le dit à redoublement. Je pourrais maintenant reprendre les traductions de tout à l'heure. Et on comprendrait mieux pourquoi j'ai repris toutes les traductions de tout à l'heure. Pour bien montrer que, d'une certaine manière, il y a des lieux mystérieusement. Quand on a l'autorité, et on est plutôt du côtelant des offenseurs, et on ne sait pas bien ce qui se passe que d'être offensé. C'est quand, quelquefois, on passe du côté des offensés, qu'on ferait bien de regarder la relecture. Mais comme les offenseurs ne regardent jamais les offensés, le circuit infernal continue. Et quelqu'un me disait, je peux bien le dire là, parce que l'Église aussi doit s'humilier. Le pape demande que pour l'an 2000, il y ait une grande reconnaissance des torts pour les Églises en vue d'une réconciliation. Mais je crois que les cardinaux n'ont pas bien entendu ça, paraît-il. Enfin, c'était dans ce que j'en ai lu, peut-être que je n'ai pas bien lu, c'est possible. Mais j'entendais quelqu'un qui disait, mais Jésus, c'est un homme étonnant, Jésus. Et il nous a libérés, Jésus. Mais les curés, ils sont en train de nous remettre dans la domination. Et je crois que c'est pas faux. Bien sûr, pour tous les curés, j'en suis de ces hommes-là. Et on ne le fait pas exprès. Mais il vaudrait mieux qu'on le sache. Alors prions les uns pour les autres, parce que peut-être qu'il y a des choses que le...